Bon, les contes et légendes et autres mythes, c'est le thème de notre festival de 2017. C'est une source intarissable d'inspiration pour tout le monde. La bande dessinée n'échappe pas, je dirais, à la règle. Et aujourd'hui, on a trois fées qui se sont penchées sur notre micro, qui vont nous en parler. Nathalie Vessilier.
Bonjour.
Bonjour, donc pour Blanche-Neige. Nathalie Ferlu pour Andersen.
Bonjour.
Et Agnès Maupré pour Tristan Iseux, mais ce ne sont que des illustrations. Je passerai sur tout ce que les psychologues, sociologues et je dirais autres experts en langue ont pu écrire et dire sur les contes. Nathalie Vessilier, pourquoi Blanche-Neige alors que beaucoup d'auteurs ont écrit dessus? Vous aviez encore des choses à dire?
Oui, en fait, le conte, y a toujours des choses à dire sur un conte parce qu'il y a énormément de niveaux de lecture. Nous, après, on a... Enfin, c'est Lilian, mon scénariste, qui m'a amené le projet en me disant est-ce que tu veux faire une adaptation classique de Blanche-Neige? Et là, je lui ai dit, première réaction, je me suis dit, bon, Blanche-Neige, en plus, il venait d'y avoir trois films sortis, je sais pas combien d'adaptations, donc c'était pas... j'ai eu le réflexe de me dire, bon, c'est pas très original. Et puis en fait, en m'appropriant le sujet, je me suis rendu compte que il y avait toujours des choses à dire dessus, des relectures à faire, des transpositions, des adaptations, et puis surtout... on ne parle pas de Blanche-Neige en 2017 de la même façon qu'on parle de Blanche-Neige en 1936 quand Disney a fait une adaptation. Les contes s'adaptent aussi à leur auditoire.
Alors en 2017, qu'est-ce qu'on dit de spécifique à propos de Blanche-Neige?
Nous, on a essayé de faire en sorte que Blanche-Neige ne soit pas juste une gourde qui passe son temps à faire le ménage en attendant le prince charmant. Donc on a essayé de faire un personnage qui est plus actif dans ses choix, qui prend des initiatives et puis qui prend un peu son destin en main. Histoire de présenter un archétype de personnage féminin qui soit pas passif et puis ennuyeux.
Et comment on arrive justement à rester, je dirais, fidèle à l'esprit, à la lettre du conte ? Et de pouvoir donner son interprétation. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit « je vais trop loin, je m'éloigne » et vous revenez inconsciemment au fil du conte ?
L'avantage du conte, c'est qu'il ne fait que quelques pages. Il ne rentre pas beaucoup dans les détails. Donc il y a beaucoup de blanc qu'on peut remplir, en fait. Donc l'adaptation, elle porte surtout sur... le fil conducteur, c'est le squelette de l'histoire. Et autour, on peut un peu approfondir la psychologie des personnages. Quand on les représente, on représente leurs sentiments. Une même scène jouée différemment peut avoir une autre portée quand on la lit. Je pense que nous, on est resté sur le texte, on n'a pas changé une lettre.
Oui, quasiment, oui, effectivement.
Mais après, on a pu faire dire aux personnages par la gestuelle, par l'acting, en fait, on a pu leur faire dire des choses différentes. Et puis on a essayé de leur donner plus de profondeur on a essayé de leur donner des préoccupations plus actuelle peut-être, je sais pas. J'espère qu'on a réussi en tout cas à transposer le conte dans une façon d'envisager les personnages plus contemporaines tout en restant dans un univers de contes de fées, tout ce qui est de plus traditionnel avec les châteaux, les robes, les couronnes et tout ça.
Donc une adaptation. Agnès, en tant qu'adaptation, votre Tristan Iseux m'a fait plus penser à l'Empire des Sens qu'à un roman courtois. Vous avez une interprétation. On a.
Désolé, visiteur.
Un jeune fan. Bonjour. Vous donnez une interprétation, ce qui m'a semblé du conte. Est-ce. J'ai rêvé ou pas?
Tristan Iseux, c'est un ancien souvenir, moi, de collège, parce que je l'ai lu en 6e ou en 5e. Et j'avais pas relu depuis. Et par contre, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et que j'ai raconté un milliard de fois au fil des années à des personnes qui l'avaient pas lu. Je l'ai vraiment énormément raconté, cette histoire. Et Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était la succession d'images très fortes, l'eau hardie, le serment sur l'île, le reflet du roi Marc dans le ruisseau. Il y avait vraiment un terrain très propice à des illustrations. Je pense que je me suis toujours dit dans un coin de ma tête que je ferais des illustrations de Tristan et Iseult. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en reprenant des études au Master Création Littéraire au Havre, finalement, c'est un scénario qui est sorti et pas des dessins. Et comme j'avais beaucoup, mon carnet de balles était très rempli à l'époque, je pouvais pas le dessiner avant 5 ans, et donc finalement j'ai filé le scénario à Saint-Jean pour qu'il le dessine, et voilà, finalement ça a pris cette tournure un peu inattendue pour moi.
Alors on voit que les contes, comme l'a dit Nathalie, ce sont des choses très très riches. À la limite, on y trouve ce qu'on apporte. Vous, à travers ce scénario, est-ce que vous avez voulu développer quelque chose de particulier ou...
Effectivement, sur cette histoire d'amour courtois ou non, c'est vrai que l'image qu'on a la plupart du temps de Tristan et Iseult, c'est ça, c'est deux jeunes gens qui tombent passionnément amoureux, et le filtre finalement passe un peu à la trappe. Et pour moi, je voulais vraiment donner l'image d'un poison qui gâche la vie. Et qui,
oui, parce que c'est plus des victimes en fait de leur propre histoire.
Oui, et justement, un des trucs qui était important pour moi, c'est qu'ils soient très jeunes. Pour moi, c'est vraiment des adolescents paumés. Et c'est vrai que dans la plupart des films qu'on voit, c'est plutôt des gens qui ont 25 ans.
Oui, une certaine maturité, on va dire.
C'est ça, le roi Marc qui est un peu plus vieux à 30 ans, mais bon, c'est des jeunes adultes, mais c'est pas des gamins. Et pour moi, c'est vraiment un truc, c'est des puceaux qui se retrouvent complètement projetés dans un truc qu'ils n'ont pas du tout contrôlé ni vu venir, et qui se retrouvent submergés par ça et qui sont incapables de gérer ça correctement.
Oui, donc ça devient une histoire assez personnelle, alors que généralement les contes, il y a une dimension pédagogique, il y a des messages qui sont transmis, une éducation même qui peut se faire à travers les contes. Là, vous êtes plus dans vraiment une histoire de personnes, quoi, sans...
Pédagogiquement, de toute façon, je ne sais pas tellement ce qu'on peut tirer de Tristan Iseult. Ce qui est marrant, c'est que...
Oui, non, mais...
Dans le bouquin que j'ai fait là avec Marie Desplechin, le journal d'Aurore, elle lit Tristan et Iseult. Son prof de français lui fait lire Tristan et Iseult, et sa conclusion, c'est que il faut pas accepter de boire des liquides inconnus que des vieux monsieur vous offrent à boire. Et finalement,
c'est une vieille reine. Oui, donc chacun y trouve bien ce qu'il veut.
Oui, un peu.
Nathalie, vous avez pris un parti tout à fait différent. Vous n'êtes pas parti du conte, vous avez raconté l'histoire de celui qui l'a écrit.
Oui. Concernant Andersen, en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est que c'est un conteur, mais c'est quelqu'un dont la vie ressemble à un conte. Et c'est quelqu'un qui s'est débrouillé aussi d'une certaine façon pour que sa vie ressemble à un conte. Andersen, c'est un peu l'incarnation du conte. C'est au tout début, le tout premier conte qu'il a écrit, parce qu'il a baigné dans un univers, quand il était petit, il a baigné dans un univers où il y a beaucoup de contes et légendes, enfin c'est des contes et légendes scandinaves. Mais la première fois qu'il a eu l'idée d'écrire un conte, c'était une adaptation d'un conte qu'il avait beaucoup aimé quand il était petit. Et puis petit à petit, mais presque tout de suite, il s'est mis à écrire ses propres histoires qui sont forcément inspirées de tout un tas de choses, donc de contes et légendes scandinaves, mais pas que. Il y a du Shakespeare, il y a beaucoup Les Mille et Une Nuits dedans, enfin il y a beaucoup de petits morceaux de tout un tas de choses. Et il a créé un univers bien à lui, en gardant le principe du conte, donc voilà. Mais ce qui est vraiment très intéressant chez Andersen, c'est que sa vie ressemble à un conte de fées. C'est quelqu'un qui a commencé très pauvre et finit sa vie en étant très riche. C'est quelqu'un qui a toujours eu une quête qu'il a jamais vraiment réussi à accomplir. Et il y a un côté très mystique en fait chez lui, et mystique tourné vers le conte. C'est un romantique en plus, c'est un romantique 19e, très
l'époque s'y prête, oui, effectivement.
Ah, c'est un écrivain romantique, sinon c'est un romancier. Il a écrit beaucoup de romans, il a écrit beaucoup de carnets de voyage, mais il s'inscrit complètement dans l'esthétique romantique du 19e siècle, qui aimait bien d'ailleurs par ailleurs le conte et toutes ces choses-là. Mais voilà, ce qui est le plus intéressant avec lui, c'est ça. C'est son personnage lui-même. Il est un personnage de conte de fées. Il est lui-même un conte de fées, en fait.
Et qu'est-ce qui a fait que, à son époque, c'est devenu une véritable icône sur la fin de sa vie, sauf à me tromper, donner une mauvaise interprétation de ce qu'il était.
Oui, Andersen, c'est même devenu une icône quand il avait moins de 40 ans. En fait, ça a commencé très vite. Dès qu'il a su écrire, et même avant de savoir écrire correctement, il a écrit des tas d'histoires, des pièces de théâtre, des n'importe quoi. Et c'était vraiment un acharné de l'écriture et quelqu'un qui consacrait énormément de temps dans sa journée à écrire. Et en fait, la célébrité lui est venue assez vite. En fait, la célébrité lui est venue avec son premier roman. Et puis ses carnets de voyage et les premiers contes, il a dû les écrire quand il n'avait pas encore 40 ans et ça a été un succès immédiat en fait. Et à partir de ce moment-là, il est devenu l'homme qui raconte des histoires aux enfants. Même si dès son deuxième recueil de contes, il était bien spécifié dessus que c'était des histoires qu'on pouvait raconter aux enfants, mais c'était plus vraiment des contes pour les enfants. Ça va souvent beaucoup plus loin que ce qu'on peut raconter à des enfants.
Oui, justement, dans les contes, il y a toujours cette ambiguïté ou cette double lecture. On raconte des contes aux enfants, mais en fin de compte, ça raconte plus l'histoire d'adultes et ça leur donne aussi des leçons.
Ouais. Bah, chez Andersen, il y a une façon de mélanger les deux, en fait. Parce que lui-même est un enfant très adulte et un adulte très, très enfant. En fait, il mélange très, très bien la réalité et le rêve, en fait, la logique du conte et la logique de la vie. Et c'est toujours assez magique. Puis c'est quelqu'un de très littéraire, en fait. C'est un des seuls, sur les contes de Grimm, même les contes de Perrault, et en général, même les contes de Madame d'Aulnoy, tout ça, c'est quand même pas forcément de la très grande littérature. Andersen, c'est très très bien écrit, c'est de la très très belle littérature. Et donc, oui, voilà, il est devenu célèbre pour ses contes qui sont très connus, mais ce qui fait vraiment sa force, en fait, c'est la beauté de son écriture et de son... Il y a vraiment un souffle poétique en permanence dans ce qu'il écrit, autant que de la logique de conte, autant que... Voilà.
Et de le connaître, ça vous donnerait envie d'adapter l'un de ses contes, mais vraiment là... Une des histoires qu'il a écrites.
Ça c'est plutôt prévu. Après, moi c'était quand j'étais petite, c'était un de mes écrivains préférés. Je l'ai redécouvert en étant ado, en me disant tiens, c'est encore bien. Et puis un peu plus tard, après avoir fait mon premier album, en fait, donc il y a un bon moment de ça, mais où j'ai relu du Andersen en me disant non mais c'est vraiment très très bien en fait. Et j'avais envie d'adapter plein de choses de lui. Mais en fait, il se trouve que il y a au moins une vingtaine de ces contes qui font vraiment partie de ma culture personnelle en fait, et de mes... En fait, j'ai jamais arrêté d'utiliser Andersen. C'est pour ça que c'est très très proche pour moi. C'est vraiment quelque chose de constitutif de tout ce que j'écris. Il est de toute façon très présent. Donc adapter des contes, ça c'est plutôt prévu. Je m'étais dit je vais faire Andersen comme ça, voilà quelque chose qui sera derrière moi, ça sera fait, ça sera réglé. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a pas que Andersen, il y a aussi tous ces petits personnages qui sont là. C'est les petits personnages en fait qui racontent l'histoire du conteur. Et le fait de les dessiner, de les voir vivre, bouger, c'était chouette parce que je me suis dit ben voilà une façon d'adapter toutes les choses que j'aime chez Andersen. Mais en fait ça m'a pas vraiment guéri, donc oui je pense que je vais essayer d'adapter. De toute façon c'est plus ou moins pour parler. Une suite, ça pourrait être bien. Il n'y aura pas une suite. Si j'ai l'occasion un jour de reprendre mon bouquin, j'essaierai de rajouter les 50 ou 100 pages en fait que j'avais envie de faire au milieu et qui n'y sont pas parce qu'il y avait besoin que ce soit concis en fait. On n'était pas certain que le sujet allait vraiment que ça allait vraiment plaire ou que les gens allaient. En général, les gens me disent toujours Andersen, j'aime pas trop, c'est triste. Et ils ont toujours une espèce de recul vis-à-vis d'Andersen, ce qui est tout à fait dommage parce qu'il y a plein de choses dedans. Et non, c'est pas particulièrement si triste que ça. Ça finit pas toujours très bien, mais c'est pas morbide en fait. Et donc voilà. Mais j'aimerais bien pouvoir un jour rajouter les 50, 100 pages qui manquent.
100 planches qui manquent.
Bah moi, je voulais m'adresser à toutes les trois et savoir quel était votre rapport au conte. Comment il est entré dans votre vie, le conte. Je sais pas, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance à nous raconter? Ou un conte particulier, je sais pas.
Ah, moi j'ai l'impression que je viens d'en parler, mais
oui, vous en avez parlé, moi.
Pour moi c'est obsessionnel en fait. Enfin, c'est obsessionnel, c'est pas obsessionnel. J'arrive à dormir la nuit quand même, mais.
Quand vous avez raconté une histoire.
C'est super important. En fait, depuis toujours, je collectionne des billets. Sur mon bureau, en fait, je me suis aperçu un jour qu'il y avait des petits canards en plastique, il y avait un ou deux petits soldats de plomb très rigolos, un peu scandinaves. Il y avait tout un tas d'objets, en fait, une petite boîte d'allumettes rigolote. Et tout ça, ça fait partie de l'univers d'Andersen.
Oui, d'accord. Il y a un contexte.
Oui, c'est maladif.
Et vous, Agnès?
Je sais pas trop. Je suis pas sûre d'avoir un rapport particulier au conte, parce que Tristan et Iseult, c'est pas exactement du conte. Vraiment du mythe.
Oui, c'est du. Oui, on
et
est plus dans le mythe.
Pas exactement la même chose. Je pense que mon rapport à moi, il est plus avec le mythe.
Avec le mythe.
J'aimerais bien bosser sur des mythes grecs aussi. C'est un truc qui me travaille depuis un moment, mais.
Et qu'est-ce qui vous attire? Parce que bon, les mythes, oui, mythe, conte, bon, il y a toujours une.
Ce qui m'attire, c'est que le mythe est à tout le monde. C'est quelque chose qui est vraiment constitutif des civilisations et qui est censé se transmettre et se modifier. Et ça ne vient pas d'un auteur, c'est vraiment quelque chose qui appartient...
À tout le monde, ouais. À l'inconscient collectif, quoi, comme ouais. Dit la formule.
C'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Tristan et Iseult, ça a traversé toute l'Europe. Il y a tellement de versions, aucune n'est complète.
Oui, on
ne
sait même pas,
y a...
on n'en connaît même plus l'origine à force.
C'est ça, et c'est vraiment ce truc-là qui me parle beaucoup... Comment les histoires se propagent comme une traînée de poudre. Et c'est vrai que sur Tristan et Iseult, j'ai l'envie de travailler dessus est revenue par un cours que j'ai eu au master qui était sur la naissance des mythes littéraires. Et Laurence Maté, qui a fait la postface de Tristan et Iseult, racontait que sur la légende arthurienne, la toute première mention du roi Arthur raconte quelque chose comme... Le roi Arthur était un grand chef de guerre, il a gagné une bataille qui avait l'air perdue d'avance alors qu'il avait 10 fois moins d'hommes que le mec qui était en face. Et à partir de là, au fil des textes, se gonfle l'histoire et on...
Chacun apportant sa petite pierre, sa petite modification.
C'est ça, et on finit avec l'immense, incommensurable légende arthurienne. Et c'est vraiment ce truc-là qui m'intéresse, comment...
Comme une simple histoire enfle, gonfle, tout le monde se l'approprie. Quoi.
C'est ça, et on est complètement libre. Un mythe, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, c'est le principe. Le mythe est à tout le monde.
Oui, mais on ne doit pas le trahir.
Si on l'a compris d'une façon qui n'est pas la même que les autres, on a vraiment le droit d'en faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de trahison possible.
Des adaptations.
Même pas des adaptations, parce qu'adaptation, ça suggère qu'il y a un texte initial. C'est vraiment de la transmission.
Et vous, Nathalie?
Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à Agnès, parce que je trouve que justement, il y a... Enfin, moi, ce qui m'a... récemment, quand je me suis donc repenchée sur Blanche-Neige, je me suis rendu compte que, bon, quand j'étais petite, j'avais absorbé une quantité de contes assez importante. J'en lisais beaucoup, beaucoup, parce que mes grands-mères m'avaient transmis cet intérêt. Mais en fait, oui, je me suis rendu compte surtout que le conte, voilà, quand on le lit, quand on est petit, voilà, on voit le côté, enfin, la simplicité du récit, l'universalité, le fait que ça parle beaucoup à tout le monde. Et après, en fait, quand plus j'ai grandi et plus j'ai vu toute la symbolique, l'interprétation philosophique de tout ça, et j'ai commencé à l'étudier dès que j'ai eu 16-18 ans à peu près. Et maintenant, c'est quelque chose que je continue à faire, même sans y réfléchir, parce que c'est vraiment, enfin, le conte pour moi, c'est un matériau, c'est quelque chose dans lequel je peux puiser indéfiniment. Il y a tellement de contes dans toutes les civilisations ont leurs contes. Il y a certains contes qui sont communs avec des variations et tout ça. Je trouve que c'est tellement riche et à la fois tellement accessible à tous. Pour moi, voilà, c'est quelque chose. Enfin, c'est un peu un virus que j'ai attrapé quand j'étais petite et que je pense que je continuerai à travailler. Je vais pas faire que des adaptations de contes, mais je sais que le conte, j'y reviendrai toujours avec plaisir pour y puiser de l'inspiration.
Ça veut dire que vous faites toujours un travail de documentation avant de commencer votre travail, votre projet?
Alors oui, là je l'ai fait. Bon, en plus c'était ma première BD, donc j'avais le souci de bien faire. Donc j'ai été très bonne élève. J'ai lu et vu plein d'adaptations. Bon, ben là de Blanche-Neige parce que ça me concernait, mais même aussi de contes un peu avoisinants, enfin avec des thématiques communes. Après, de toute façon, oui, voilà, les contes, il y a souvent plein de versions différentes, de variations, de choses comme ça. Il y a eu une documentation. Après, est-ce que je m'en suis servi entièrement? Non, ça m'a certainement influencé ou imprégné, mais voilà.
Dans vos futurs projets qui ne seront pas forcément consacrés aux contes, est-ce qu'on peut imaginer que vous allez intégrer des personnages issus de contes que vous ayez puisé au fil de vos lectures, de vos découvertes?
Alors, moi, je pense pas, parce que justement, vu que je viens de passer 2 ans et demi à travailler sur une adaptation de conte, je pense que je vais m'en éloigner un peu pour mieux y revenir. Après, je sais pas. Sinon...
Moi, je vais continuer sur Tristan Iseux, en fait.
C'est la saga, le retour.
Non, pas vraiment, mais je fais une version comédie musicale, du coup.
Comme quoi, le mythe se prête à tout. Les interprétations.
Oui.
Nathalie ?
Et moi, en fait, dans mes multiples projets, entre ceux qui sont et ceux qui sont encore dans mon tiroir, il y a de toute façon, j'ai plus ou moins prévu de travailler sur les contes d'Hoffmann, en fait, sur le Casse-Noisette, qui n'est pas non plus très très éloigné d'Andersen, en fait, qui est aussi dans cette veine romantique et très riche et avec plein de choses chouettes, et qui me permettra une fois de plus de ramener des choses dont j'ai envie de parler depuis longtemps.